Vous écoutez France Culture.
Note pour Diane. Diane, merci de me faire un topo sur un ensemble d'individus. Ils ont pour point commun d'être des personnages de production des années 80. Il y a un truc pas net chez eux. Je sais pas encore quoi, mais je vais bientôt le savoir. Diane, appelez mon dentiste et annulez. Je vais être très occupé à traquer cette faune de personnages comme on en a encore jamais vu à la télé. Il y a ce détective un peu roublard qui danse le limbo en caleçon. Il y a cet agent du FBI qui parle à son dictaphone, puis un autre qui se déguise en femme. Toutes ces séries en font trop, Diane. Elle parle, elle n'arrête pas de parler. Elle parle de l'Amérique avec une liberté de ton étrange. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces années 80, mais j'ai peur d'être en face de quelque chose d'énorme, Diane. S'il vous plaît, faites une recherche sur la Quality Television.
Benoît Lagane, Éric Vera, série télé L'Amérique en 24 épisodes. Ce soir, épisode 13, années 80, les années laboratoires.
Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué une série qui a révolutionné la télévision. Cette série, c'était Hill Street Blues, du signé du tandem Michael Kozol et Steven Bochco. Alors, c'est une œuvre qui ouvre une période incroyable pour la télévision américaine. On va parler de cette période aujourd'hui. Une période pendant laquelle un vent nouveau va souffler. Les créateurs se lâchent, ils s'affranchissent d'un formatage qui était quand même assez triste pour l'époque. Formatage imposé généralement par les publicitaires. Alors, cette période, on va la délimiter. Grosso modo, elle va de Hill Street Blues en 81 jusqu'à la fin de Twin Peaks au début des années 90. Alors, c'est une période aussi où le contexte joue, puisque c'est la fin de ce qu'on appelle le code télévision, l'équivalent du code Hays au cinéma. Un code, une règle de bonne conduite très conservatrice entre les chaînes et les studios qui acceptaient finalement de se censurer eux-mêmes pour le bien des annonceurs. Alors, une fois ce code télévision brisé, les auteurs se libèrent. Et puis bon, sous la conduite de Steven Bochco avec Hill Street Blues, on va arriver vraiment à une télévision qui va très très loin dans ses thèmes. On va en parler aujourd'hui.
Alors Hill Street Blues, nous en parlions hier. Ce soir, pour mieux comprendre ce qui va se jouer dans les années 80, une décennie qui est trop souvent présentée à tort en France comme une décennie inintéressante, eh bien les années 80, ce n'est pas uniquement la décennie de séries comme Sheriff et moi peur, Supercopter ou K2000, c'est aussi celle de Kanye Lassé, China Beach, Claire de Lune ou encore Bienvenue à Alaska ou Twin Peaks, vous le disiez judicieusement, une décennie de petits bijoux télévisuels.
Alors, ce qu'on va appeler donc en anglais la quality television, on va revenir sur la définition. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'avant que cette quality television, donc dans les années 80, arrive, il y a un certain nombre de signes qui montrent que les choses sont en train de bouger. Alors j'en veux pour preuve D77 Dallas, qui impose un format de feuilleton soap en prime time. On n'avait jamais vu ça. Lou Grant, série déjà produite par MTM, c'est le quotidien d'un grand journal, et la série n'hésite pas à aborder des sujets brûlants pour l'époque, et ça c'est nouveau. Donc tous ces changements, finalement, ils vont se cristalliser sur les séries d'une maison de production qui s'appelle MTM. MTM qui va être le creuset de multiples rencontres. Elle va jouer le rôle de laboratoire, et on reparlera de ce terme de laboratoire durant cette émission. Un échange d'idées entre des auteurs, des réalisateurs, des producteurs qui ont tous la même idée, c'est mettre les pieds dans le plat et changer un petit peu la donne en télévision. Et d'ailleurs, donc le patron de MTM, Grant Tinker, lui, son credo, c'était « il faut laisser travailler les auteurs ». C'est ce qu'il a fait, et on va voir ce que ça donne.
Demandez pourquoi on entend ce générique de la série Mary Tyler Moore Show qui est diffusée tout au long des années 70, mais simplement parce que Mary Tyler Moore, MTM, est l'épouse de Grant Tinker dont vous parliez à l'instant, et c'est avec elle qu'il va mener à bien cette révolution.
«
Alors la quality television qui hante les années 80, il serait bon de lui donner une définition un petit peu plus claire. L'universitaire Jan Fehr en a donné une plutôt bonne, articulée en 12 points, que Robert Thompson commente dans un excellent livre sur la période, Television's Second Golden Age.
Alors ces 12 points, c'est quoi ? Alors, premier point, la quality TV n'est pas de la télé classique. Alors c'est bon, c'est un peu une banalité, mais on va voir que c'est vrai, puisque si on prend par exemple Clair de Lune, on voit bien que à cause de ses mises en abîme, à cause du mélange des genres, on voit bien qu'on n'est absolument pas en face d'une série classique. Hill Street Blues, Saint Elsewhere, Twin Peaks, qui font partie de ce club, ont exactement les mêmes caractéristiques.
Good evening, I'm Orson Welles. Tonight, broadcasting takes a giant leap backward. In this age of living color and stereophonic sound, the television show Moonlighting is daring to be different and share with you a monochromatic, monophonic hour of entertainment.
La quality television, c'est aussi une télévision qui propose des séries avec des groupes de personnages.
Oui, c'est le règne en fait des intrigues multiples. Et on l'a vu dès le pilote de Hill Street Blues avec ses 6 intrigues principales, secondaires. On va le voir dans La Loi Los Angeles. Hein. Toutes ces séries en fait se construisent sur un large casting, ce qui permet une multiplicité d'histoires. Et c'est vrai qu'elles en paraissent d'autant plus riches.
Avec la quality television, on est désormais aussi dans des séries qui évoluent avec le temps, c'est-à-dire que les saisons ne sont pas interchangeables, il y a vraiment un début, un milieu, une fin.
On pourrait dire que la série a une mémoire, hein. Même si elle n'est pas feuilletonnante, tout ce qui est implémenté dans les premières saisons va servir pour la suite. Et ça c'est très nouveau.
Bonsoir, je suis Orson Welles. Ce soir, vous allez voir la télévision faire un très grand pas. Mais en arrière, à notre époque de télévision en couleur et de son stéréophonique, cette émission de télévision Clair de Lune a l'audace de se montrer différente, en vous offrant un spectacle en son monophonique et réalisé en noir et blanc.
Par ailleurs, également, la quality television crée des genres nouveaux tout le temps en s'inspirant et en mixant des genres plus anciens.
Si on prend toutes les grandes séries de la quality television, on va s'apercevoir qu'elles sont assez rarement identifiables dans un genre particulier. J'en veux pour preuve, par exemple, Clair de Lune, hein, où c'est une série qui va tellement dans tous les sens qu'au moment des Emmy, les votants ne sauront pas où la ranger. Est-ce que c'est un drama? Est-ce que c'est une comédie? Et ça sera vrai pour énormément d'autres séries. Donc c'est bien symptomatique de tout ça.
Alors la quality télé, c'est aussi une télévision qui a un certain sens du réalisme.
Même quand, je dirais, l'univers lui-même est suffisamment décalé, baroque, les personnages sonnent juste. C'est surtout ce réalisme-là dont il est question. Le meilleur exemple, c'est Cagney et Lacé, par exemple, hein, série policière.
Avec ses deux femmes flics.
Voilà, qui n'ont rien de fantastique physiquement, qui enquêtent dans un New York, je dirais, qui est assez banal, qui ressemble plus à celui de Hill Street Blues et puis de Kojak que d'une série très, très esthétisante.
On est loin des drôles de dames, quoi.
Exactement. Donc, et voilà, ça, c'est une vraie chronique policière qui parle du vrai problème des femmes policiers. On est vraiment dans le bon sens du réalisme.
C'est pourquoi, dans une douzaine de minutes, l'écran de votre télévision se mettra à fonctionner comme un bon vieux noir et blanc. Ne touchez pas au réglage, surtout pas, au cours de cet épisode. Il s'agit d'une expérience unique, qui, nous l'espérons, vous plaira. Alors, rassemblez les enfants, le chien et la grand-mère dans une autre pièce de la maison. Enfermez-les et régalez-vous avec cet épisode très particulier de Clair de Lune.
Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans les années 80, autour de la quality television, il y a aussi toute une gamme de séries qui imposent un point de vue plutôt libéral, voire à gauche, notamment des séries anti-Reagan. Je pense par exemple à une série qui amorce la quality television quelques années auparavant, c'est Lou Grant, une série...
C'est déjà une série MTM. Hein.
Voilà, qui est une série sur les coulisses d'un journal, et où bien évidemment le personnage principal est clairement plus démocrate.
Oui, il ne faut pas oublier qu'on sort aux États-Unis de la grande période du journalisme d'investigation. Bernstein et Woodward ont fait démissionner Nixon, hein, quand même. Et on voit effectivement ces séries des années 80 de la quality television qui n'ont pas peur de parler des sujets de maintenant. Et ça donne, je pense par exemple à 30 Something, où constamment ça parle, ça parle, ça parle. Et toute la société américaine est passée au tamis hein, de ce discours critique des auteurs. Donc ça parle des bobos, ça parle des intégristes, ça parle de la société de consommation et de ses mots. Et ça va très très loin.
Bonjour, je suis Madeleine Hayes et voici David Addison.
Salut. Nous sommes venus vous dire un petit bonjour avant que ne débute réellement votre feuilleton préféré, Claire de Lune.
C'est exact, c'est idiot.
Comme
je ne vois vraiment pas pourquoi nous...
Vous devez me tenir compagnie et dire bonjour aux téléspectateurs. Ah. Vous êtes ici parce que le scénario veut que nous disions bonjour aux téléspectateurs.
Ben voyons.
Et aussi parce qu'on nous l'a demandé.
Nous y voilà. Nous y voilà. La chaîne trouve que l'épisode de ce soir est trop court et que chaque épisode doit durer 50 minutes et pas 49 minutes ni 51 minutes.
Je vous l'avais dit.
50 minutes et nous devons avoir une minute.
Maintenant que tout le monde le sait, nous pourrions.
Et vous savez pourquoi nous sommes trop courts?
Appelez-moi mon agent.
Parce que vous parlez trop vite. Si vous ralentissiez un peu le début, nous pourrions peut-être avoir un épisode d'une bonne durée. Et puis
ça suffit. Un seul producteur vient bonjour aux téléspectateurs, il n'a qu'à le faire lui-même.
Coupé.
Alors, dernier point peut-être, la Quality Television est aussi une télévision qui a un succès critique important, presque plus que public, du moins au début.
Oui, si on prend en fait les grands prix de la télévision américaine, je pense aux Emmy, aux Golden Globes et aux Peabody, qui sont les trois principaux, on va s'apercevoir que dans les années 80, toutes les récompenses sont quasiment trustées par ces séries du club de la Quality Television. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces séries, elles ont un succès critique parce qu'elles sont très pointues, elles intéressent certaines parties des téléspectateurs, mais que ce n'est pas forcément de grands succès publics et que les prix vont jouer justement cette caisse de résonance. Et Hill Street Blues est complètement dans cette configuration. Au début, elle n'a pas de raison de rester tellement elle attire peu de gens, simplement elle attire les bonnes personnes qualitativement. Et une fois qu'elle a des prix, le grand public vient et c'est un succès.
Alors tout au long de cette liste, nous avons évoqué beaucoup de titres de séries, les séries qui vont marquer toute cette période. Il faut savoir que la Quality Television propose des séries dans des univers très divers. Hein. La série policière, Cagney et Lacé, la série familiale, la dramédie, la comédie romantique comme Claire de Lune, la série médicale et militaire avec China Beach, la série fantastique avec Twin Peaks, voire la chronique poétique avec Bienvenue en Alaska. Nous parlerons dans cet épisode de quelques-unes de ces séries.
Comment c'était?
Ben, justement, les petits cocos, c'était trop court.
Trop court? Et vous savez pourquoi?
N'essayez pas de rejeter la faute
sur moi. Parce que vous parlez trop vite.
Non, c'est pas parce que je parle trop vite, mais c'est parce que vous, vous parlez quand je parle. On commence?
On commence.
À tout de suite. Someone by night.
Moi, si je devais prendre une seule série de cette Quality Television et l'emmener avec moi sur mon île déserte, ça serait Claire de Lune, hein, parce que je pense qu'elle compile tous les bons ingrédients de la série et de divertissement et puis de la série qui vous fait réfléchir. Alors bon, déjà, la série elle-même, c'est le postulat, c'est l'affrontement entre un détective privé roublard, un ancien mannequin ruiné mais qui vient prendre possession de son agence de détective. Et donc l'homme plutôt macho doit travailler sous les ordres du mannequin qui est plutôt froide et qui a plutôt envie de dominer. Et là-dessus, bien sûr, c'est pas simplement cette histoire, c'est aussi toute une réflexion sur la télévision, comment c'est tourné. Et peu à peu, la série se décale. Il y a cette histoire d'amour latente qui est très importante.
Qui vous a fait rêver.
Qui m'a fait rêver quand j'étais adolescent. Et puis, il y a aussi ce jeu constant avec la télévision. Donc, il y a un jour où le générique qui est normalement chanté par Al Jarreau commence sans Al Jarreau parce que Al Jarreau est prisonnier dans les embouteillages. Il y a cet épisode où, au bout de 40 minutes, ils disent « Bon, bah là, le script est fini, qu'est-ce qu'on fait ?» Il y a l'épisode de Noël où, en fait, on voit tout ce qu'on voit normalement pas dans une série télé, c'est-à-dire les décors. La fin de la série, c'est le démontage des décors. Voilà. Donc la série joue énormément avec ça, mais au-delà de ça, c'est aussi une formidable prestation de Bruce Willis qui va passer son temps à chanter, danser, faire des cascades. Et puis c'est une référence permanente à la screwball comedy, donc c'est-à-dire les vieux films des années 40-50, aux dessins animés, les chess cartoons. Chaque épisode se finit par une poursuite digne d'un Tom et Jerry. Et elle est complètement, je dirais, diverse et variée, et puis en même temps extrêmement bien écrite.
Alors dans les années 90, avec des séries comme Ally McBeal, on voit beaucoup de guests. Dans Clair de Lune, bien avant, on s'amusait beaucoup à inviter des gens importants. Moi, je me souviens par exemple d'un épisode avec Orson Welles.
Oui, il y aura aussi, on va voir passer Barbara Baines hein, de Mission Impossible, Whoopi Goldberg. Il y a un soir où Ray Charles est dans le salon de David Addison, qui est en train de déprimer. Il arrive dans son salon et il y a Ray Charles qui est là avec des chanteuses, et donc qui va lui expliquer que la vie, c'est pas comme si, c'est comme ça. Et voilà, on est dans un délire permanent. Et c'est vrai que c'est des séries qui sont très dures à faire aujourd'hui, même si, par exemple, Scrubs ou des comédies de ce genre vont dans cette direction. On est encore très très loin du modèle Clair de Lune.
Bonsoir, je suis Madeleine Hayes.
Et moi, David Addison.
Ces derniers mois, nous avons été tellement accaparés par le tournage de ce feuilleton que nous n'avons pas eu le temps de remercier tous ceux qui nous ont écrit.
C'est vrai. Donc, tout d'abord, merci. Vous savez, durant nos enquêtes, il nous est impossible de répondre à notre courrier.
Et ça nous rend très malheureux. Alors, nous allons consacrer un petit moment avant l'épisode d'aujourd'hui à répondre à certaines de ces lettres.
C'est ça. Bon, qui commence?
Je sais pas, moi.
Très bien, je commence. Cher David, j'ai lu quelque part que Maddie Hayes et vous étiez sur le point d'avoir une liaison. Si c'est vrai, dites-moi quand que je branche mon magnétoscope. Signé Sally Yang. Eh bien, Sally, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis qu'un personnage de feuilleton et je ne fais que me conformer au script. Et si toutefois nous devions avoir une liaison, enfin, pour parler franc, je ne sais même pas si nous aurons une liaison ou quand nous aurons une liaison. Désolé.
Alors Benoît, résumons, on vient de parler de la Quality Television, hein, ensemble de séries, et on va encore en parler, mais séries complexes, ambitieuses. On a dit aussi que les années 80, c'était aussi le règne de Manimal, de K2000, de Supercopter. Entre les deux, il n'y aurait pas un autre groupe de fiction?
Il y a ces fictions classiques dans la lignée de tout ce que l'on a fait depuis 30 ans, c'est-à-dire des séries au format plutôt habituel, mais qui sont quand même fabriqués avec un certain talent. Et je pense par exemple aux œuvres de Donald Belisario, et en particulier aux fameuses enquêtes du plus célèbre détective privé à moustache d'Hawaï, Eric.
C'est Thomas Sullivan Magnum.
Alors cette série est assez classique, hein, mais restera dans les mémoires pour le jeu des deux comédiens principaux, en particulier Thomas Magnum, ancien officier de la Navy, type plutôt cool, et le majordome So British Higgins, ancien sergent donc de l'armée britannique, grand amateur d'histoire militaire, et la rivalité entre les deux personnages offre aux scénaristes de nombreuses situations au dialogue plutôt succulent.
Linda.
Oh, Higgins, quelle surprise. Je vous présente.
Je me suis déjà présenté à Mademoiselle Andrews, Magnum. J'en ai profité pour préciser la position que vous occupez ici.
Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Vous nous quittez déjà, Magnum? J'étais très ému quand Carole m'a téléphoné pour m'annoncer votre venue, mademoiselle.
Merci.
Oui. Enfin, loin de moi l'idée de vous importuner, Mademoiselle Andrews.
Mais je...
Enfin, je suis... Je suis extrêmement impatient d'entendre vos commentaires sur cela. Voilà.
Ça fait mal, hein?
Eh bien, c'est vraiment...
Enfin, en dehors de l'évidente profondeur du symbolisme psychologique que je dirais inhérent à votre œuvre, ça représente quoi, ça, Higgins?
C'est du primitif.
Ça se voit.
Le style est primitif et c'est pourquoi je suis impatient de connaître l'opinion de Mademoiselle Andrews. Naturellement, vous ignorez tout du fait qu'elle est une artiste mondialement connue et le maître de l'art primitif néo-américain du Pacifique Nord.
Bon. Eh ben, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à vous dire, alors vous m'excuserez, mais je suis en retard pour mon match.
Si nous sommes des primitifs, c'est un primate.
De toute façon, j'ai pas compris, alors.
Alors vous voyez, là on n'est pas dans de la quality television au sens strict du terme, mais c'est vrai que dans Magnum, il y a aussi la voix off hein, de Thomas Magnum qui en fait cette espèce de petit manuel du détective hein, qui revient d'épisode en épisode. Il y a les gimmicks, c'est-à-dire la fameuse son patron Robin Masters qui est invisible, il en vient à douter de son existence, il y a même un moment où on imagine que c'est peut-être Higgins lui-même qui est Robin Masters, donc... On n'est pas dans de la quality television, mais on s'en rapproche parce que cette série très classique, elle devient quand même elle aussi complexe. Il y a plein de choses qui vont arriver dans les dernières saisons qui ne seraient pas arrivées peut-être si la quality television n'existait pas. Et là, on voit bien l'influence quand même qu'ont toutes ces séries.
Et c'est une série qui arrive à mixer des univers très différents, l'enquête policière, la comédie et puis parfois même l'univers du film de guerre.
Ce qui fait vraiment la nouveauté de cette série, c'est effectivement le fait que...
Marjolaine Boutet, universitaire.
Thomas Magnum soit un personnage positif qui a fait la guerre du Vietnam. Et ça, c'est vraiment le premier, parce que dans les années 70, les anciens combattants de la guerre du Vietnam sont toujours des personnages perturbés. Là, Thomas Magnum est un personnage extrêmement charmeur, hableur, qui s'adresse aux téléspectateurs et qui est le personnage auquel on s'identifie. Ça reste une série qui traite aussi quand même, si on la regarde attentivement, de la société américaine de l'époque et qui a un discours, à mon sens, très idéologiquement connoté dans la mesure où c'est très souvent les hippies bons vivants libertaires des années 70 qui sont en cause. Leur mode de vie est vraiment présenté comme mauvais, dommageable et donnant lieu donc à des crimes, alors que les anciens combattants de la guerre du Vietnam, eux, ils ont vraiment appris la vie en combattant pour leur pays. Et que eux sont vraiment porteurs des vraies valeurs américaines, donc la fidélité, la loyauté, l'amitié. Donc il y a quand même un discours dans cette série, si on la regarde attentivement, qui est pas anodin du tout. Et voilà.
Belisario lui-même, de toute façon, est quelqu'un qui est plutôt à droite, quoi.
Oui, Belisario. Donc ensuite, il a fait Supercopter dans cette décennie-là aussi. Il a fait Le Jag, qui est quand même pas une série très très à gauche. Et il fait NCIS aujourd'hui, donc qui est un peu plus drôle et un peu plus libéré parce que on est dans la décennie 2000 et que je pense qu'il a d'autres scénaristes donc qui travaillent sous ses ordres, qui sont un peu moins à droite sans doute. Mais oui, Belisario, pour moi, il est vraiment emblématique de cette décennie 80 et de cette morale conservatrice qu'on retrouve dans la plupart des séries, même s'il y a effectivement des exceptions, des innovations, et il y en a toujours. Mais globalement, la décennie 80 reste quelque chose de très conservateur.
Diane, 6h18 du matin, chambre 315, hôtel du Grand Nord à Twin Peaks. J'ai bien dormi. C'est une chambre pour non-fumeurs, il n'y a donc pas d'odeur de tabac. Juste celle enivrante de ces arbres fantastiques. Diane, ça m'est revenu plus tôt ce matin. Il y a deux choses qui continuent à me poser problème. Je parle non seulement en tant qu'agent de bureau, mais en tant qu'être humain normal. Que s'est-il réellement passé entre Marilyn Monroe et les Kennedy? Et qui est le véritable assassin de John Kennedy?
Alors si les années 90 hein, qui vont succéder aux années 80 sont aussi riches, et nous le verrons dans nos prochains épisodes, c'est bien parce que pendant cette dizaine d'années des années 80, la quality television a servi de laboratoire, c'est notre thèse. Hein. L'exemple le plus emblématique, c'est Twin Peaks, la série de David Lynch, une production qui crée une grosse attente médiatique hein, autour du fameux qui a tué Laura Palmer. Tout ça pour finalement accoucher d'une souris. Alors David Lynch perd le téléspectateur à coups de passe-passe de moins en moins bien accueilli. Alors le crash de Twin Peaks, parce que finalement la série va être annulée assez vite, ce crash il va entraîner finalement cette manière de faire de la télé très audacieuse, très pointue avec lui.
Avec Twin Peaks, ce qui est curieux, c'est qu'en France, elle va avoir un effet équivalent à celui d'Hill Street Blues aux États-Unis. 10 ans plus tard. C'est-à-dire qu'on évoquait hier que Hill Street Blues est une série qui va intéresser tout de suite, dans les années 80 aux États-Unis, une élite, un monde intellectuel. Et Twin Peaks va jouer le même rôle en France 10 ans plus tard, quand la série va être diffusée. Tout d'un coup, il est de bon ton d'apprécier la série télé. Donc, cette série, parce qu'elle est appréciée par une élite, par un monde intellectuel qui aime particulièrement David Lynch, est, moi, quand même, à mon avis, un petit peu surestimée.
Diane, il est 12h27. Je voudrais que vous étudiez mes options de plan de retraite concernant l'investissement immobilier. Je pourrais peut-être envisager de m'offrir une propriété par ici, dont le prix serait éventuellement raisonnable.
Alors pourquoi on n'a pas fait des séries dans le style de la Quality Television tout le temps ?
Finalement, l'industrie américaine s'est adaptée. La Quality Television, je pense que c'était avant tout une télé faite par des auteurs, et les auteurs ont aimé écrire tout ça. Mais finalement, c'était un type de télévision qui n'était pas bien vu industriellement parlant. C'est une télé qui s'exporte pas bien parce que les thèmes sont très très américains. C'est très dur à traduire. Il y a beaucoup de choses qui sont pas compréhensibles par d'autres populations. C'est une télé qui se rediffuse moins bien, et ça c'est important en termes de télévision, de pouvoir se servir des heures à volonté, et c'est pas facile dans le cas de la Quality Television. C'est une télé exigeante, hein, c'est des gags très précis, c'est très intellectuel, donc c'est une télé qui demande d'être suivie, vraiment. Et puis c'est surtout aussi une télé exigeante, et l'exigence, ça coûte cher. Et la plupart de ces séries vont en fait être des échecs commerciaux. Hill Street Blues, finalement, Steven Bochco quitte le navire avant la fin parce qu'il dépassait constamment le budget de ses épisodes. Donc MTM finissait par perdre de l'argent, et la chaîne aussi. Et Twin Peaks, on y revient, ça va vraiment être l'argument. Vous voyez, ces séries, on peut pas en faire tout le temps, c'est trop casse-gueule. Après, ce qu'on peut dire quand même des chaînes, elles ont arrêté tout ça, mais elles ont quand même eu le courage de l'initier, parce qu'il y a eu cette course à l'innovation. Quand NBC produit Hill Street Blues, c'est pour devenir numéro un, donc c'est une course à l'innovation. Et ça, bon, les chaînes, elles prennent des risques.
Alors, on prend des risques avec Twin Peaks, et vous disiez à l'instant que ça marquait la fin de cette période. En fait, c'est plus compliqué que ça, la fin de la Quality Television. Alors, il y a une autre série qui, pour moi, marque mieux la fin de la Quality Television, voire la transition. La série qui va finalement faire passer le monde de la télévision des années 80 à celle des années 90. Cette série, c'est Bienvenue en Alaska. Elle est diffusée tardivement en France sur Série Club. Elle est lancée, je disais, au même moment que Twin Peaks, dans un cadre assez similaire. Une petite ville forestière du nord-ouest des États-Unis pour Twin Peaks, un petit village au cœur des forêts de l'Alaska pour Bienvenue en Alaska. La série la plus prisée en France, donc Twin Peaks, ne durera qu'une trentaine d'épisodes, alors que Bienvenue en Alaska, série complètement méconnue, est une chronique poétique, philosophique, fantaisiste, parfois même fantasmagorique, de 146 épisodes, sans surtout nous perdre en chemin. Alors cette série raconte le quotidien d'une petite communauté multiculturelle de l'Alaska. Le personnage qui nous fait découvrir ce charmant petit coin d'Amérique du Nord, ce n'est pas comme dans Twin Peaks, un agent du FBI, mais un jeune toubib new-yorkais d'origine juive, et qui va devoir se confronter à cette petite communauté qu'il va mettre pas mal de temps à comprendre et à appréhender. Ce groupe de personnages dans Bienvenue en Alaska est en fait un véritable condensé de ce que peut conter l'Amérique mythologique. C'est en gros le rêve américain appliqué, un ancien cosmonaute de la NASA, un ex-tolard aux allures de Jack Kerouac, par ailleurs philosophe, mystique et animateur de radio, un jeune amérindien cinéphile un peu paumé, fan de Scorsese, etc. etc. Cette série réussit là où Twin Peaks se plante, c'est-à-dire nous faire entrer dans son univers sans nous y perdre, nous faire croire à des personnages loufoques, bizarres, et surtout nous les faire aimer. Et en plus de tout cela, elle réussit à nous émouvoir et à nous questionner sans artifice ni faux semblant.
Little hands on the 6, big hands on the 12. Good morning, Sicily. Chris in the morning, heralding the dawn on K-Bear 570 on your AM dial. The voice of the borough of Arrowhead County. K-Passa, oui, let's take a look.
Les séries estampillées Quality Television, elles vont donner la marche à suivre. Elles ont bâti finalement les 20 ans de drama qui vont suivre. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir en urgence une version plus moderne, plus aboutie, plus grand public de la géniale Saint Elsewhere. De même, Hill Street Blues, elle apporte un ton nouveau à la série de flics et une veine très humaine, très réaliste qui va permettre l'avènement de Homicide ou de NYPD Blue. 30 Something, série sans action ou presque, bah elle aussi, elle annonce des séries très humaines comme Once and Again, comme Angela 15 ans. C'est vrai qu'il y a une vraie passation de pouvoir, vous en parliez tout à l'heure, Benoît. Alors, ces séries des années 90, bah on va en parler tout au long de nos prochaines émissions. Mais en attendant, achetez des DVD et regardez de la quality television.
Allez, c'est bon, c'est parti. On va s'en regarder un clair de lune, ça vous dit ?
Vous le savez aussi, les téléspectateurs le savent, alors qu'est-ce qu'on attend ?
Mais ce n'est pas dans le script.
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes. Prise de son, Pierre Mine. Mixage, Pierre Monteil. Réalisation, Lionel Quentin. Une émission de Benoît Lagan et Éric Vera. Retrouvez plus d'informations sur franceculture.com, à la page de notre émission, et dans la revue Générique, le magazine de la culture série. Demain, l'évolution des sitcoms des années 70 aux années 90. Bonne nuit.
Qu'est-ce qu'il y a ?
J'en sais rien.
Ça ne va pas ?
Ben...
Vous n'êtes pas en condition.
Pour être franche...
J'aurais ça exactement la même chose. S'il vous plaît, éteignez les lumières.
Bien.
Il est 23h sur France Culture. Dans un instant, retrouvez Pierre Chevalier pour Sur les Docks. Mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes-annonces.